vous l'avez bien connu. Vous l'avez bien connu, une émission sans contrainte ni personne, vous l'avez bien connu, proposée par Ambroise Perrin. Épisode numéro 15, Je m'aime, moi aussi. Chez l'ophtalmo, en double et triple vue. Chers amis, bonjour. Alors c'est une impression très bizarre. J'étais chez l'ophtalmologue, je feuillette un magazine, oui, alors c'était avant le Covid où l'on pouvait encore mettre ses doigts sur des choses que quelqu'un d'autre allait toucher après vous. Et je suis là à lire un truc, bon, plutôt débile, mais enfin très rigolo, c'était dans Gala. Et il y a une photo qui m'attire, c'est une très jolie, alors je vais dire dame, qui a gagné un concours, et c'était aussi avant que l'on se rende compte que c'était macho de dire une très jolie nana. On n'a plus le droit, enfin on ne le dit plus, bon, c'est bien comme ça. Alors je lis l'histoire assez incroyable de cette fille. Elle est née muette, donc impossible à inviter à la radio, et elle est arrivée première au concours The Voice, le concours de télévision, vous savez, sur les chansons. Alors, elle raconte dans cet article, enfin, pas très long, mais enfin, des aventures absolument incroyables. Je lis ça avec quand même un peu de suspicion, mais beaucoup d'amusement. Je trouve ça très drôle, hein, comme ça. On est muet et on va à l'opéra et on chante les grands airs. Et tout d'un coup, toc, la porte s'ouvre au suivant. Alors, je me lève, je laisse le magazine sur la table de la salle d'attente. Je croise la patiente qui sort du cabinet, et c'est elle. C'est la jolie nana de Gala, là, à Strasbourg. Alors, est-ce qu'on appelle cela une coïncidence? Alors, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, de telles coïncidences. Moi, je demande ça à mes invités dans le studio, mais vous avez une jolie dame, comme ça, vous la voyez dans un contexte totalement aseptisé et surtout anonyme, hein, un grand magazine qui tire à des milliers d'exemplaires et tout d'un coup vous la trouvez devant vous. Alors bien sûr, elle s'appelle Alice, elle est belle comme le pays des merveilles, et autre coïncidence, on en a parlé avant d'entrer dans le studio radio, et vous m'avez dit, ah ben, vous étiez au lycée ensemble. Je crois que c'était au Pontonnier, à Strasbourg. Alors, je me tourne vers mon premier invité, Albert Zaune. Vous êtes acteur, vous avez raté le concours d'entrée du TNS, mais vous avez maintenant votre propre troupe. Alors, je précise, vous êtes alsacien, Albert Zaune, Albert Zaune. Cette dame, vous m'avez dit, elle est connue, c'est un mannequin célèbre sur les réseaux sociaux, et elle a des followers pour des fringues de luxe. Alors ça, c'est un truc que je ne comprends pas tellement quand je lis ça, qu'il peut y avoir 100 000, 200 000 personnes qui vont consulter tous les jours ou tous les deux jours sur les réseaux sociaux quelqu'un qui va faire de la publicité pour des... Et ça marche beaucoup. C'est pas comme un blog où on fait de la littérature, où vous avez une centaine de personnes qui lisent un petit peu ce que vous écrivez. Là, ce sont des milliers de gens. Donc, cette jeune fille, Alice, vous étiez au lycée ensemble. Est-ce que vous auriez pu imaginer qu'un jour, cette copine de classe devienne ainsi une star ? Oh, bien sûr que non. Non, on ne peut pas dire qu'à l'époque, elle était canon. Non, bon, moi non plus, je ne lis pas les magazines de mode, mais bon, elle fait quand même 1 million de clics par semaine. Bon, je me souviens qu'elle avait des dispositions, hein. Au lycée, c'était quand même quelqu'un, on s'apercevait tout de suite qu'elle avait du caractère, elle était un petit peu différente, comme ça, elle nous accrochait un petit peu par son... elle était toujours joyeuse, elle était sympa. Ah bon ? Et je ne sais pas comment ça s'est passé avec elle. Elle a bien réussi ses examens ? Vous avez... je vais vous raconter une anecdote. Au théâtre, on avait joué Antigone, Danouille. Et bon, ben, les répétitions, ça se passe toujours. Vous savez, on est un peu entre copains, on adore ça. Les profs sont sympas. C'est d'habitude le prof de français qui nous fait faire ces trucs de théâtre. Et puis, c'est bien parce que, ben, entre nous, on se retrouve, voilà, l'ambiance du théâtre, tout. Puis alors, on joue quand même un jour devant le public. Et là, Alice, elle a un trou de mémoire. Et tout le monde dans les coulisses, on est là, on lui souffle son texte et tout. Elle, pas du tout. Elle se met debout. Elle est imperturbable. Elle regarde les spectateurs, une façon de dire « regardez-moi », une façon de dire, ce qu'elle devait exprimer, « je suis l'orgueil d'Œdipe ». Eh bien, elle ne dit rien, mais par la profondeur de sa mélancolie, ça suffisait pour qu'elle n'ait pas la peine de faire des phrases. Et simplement du regard, du geste, elle était arrivée à faire passer son texte. Bon, ça, c'est quand même assez étonnant, hein. Donc, en fait, elle était en train d'improviser. Non, ce n'était pas de l'improvisation. C'était une façon d'être quelqu'un d'autre. C'était vraiment une autre manière d'exprimer du théâtre. Alors, c'est un petit peu comme s'il y avait eu deux actrices, celle du texte et celle qui improvisait. Ah oui, 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 effectivement, c'était quelqu'un de différent. On aurait pu dire qu'il y avait deux personnes en une seule. Alors, bon, c'est pas de la schizophrénie, mais quand même, c'est une anecdote qui me revient souvent, j'y pense souvent, parce que je me dis que si un jour je la revois, comme vous l'avez rencontrée chez l'ophtalmologue, si moi je la revois comme ça dans la rue et tout, bon, bien sûr, on va se reconnaître, hein. On était quand même au lycée ensemble, on a fait plein de choses, tout le monde était amoureux d'elle, mais tout le monde était amoureux de tout le monde à cet âge-là, hein. C'est normal. Mais je ne sais pas si je retrouverai la personne brillante, qui réussissait bien ses devoirs, qui était sympathique, ou alors cet être mystérieux qui avait cette aura face au public. On dit toujours qu'il y a trois personnes dans une personne. Il y a la personne publique, hein, celle, l'élève, là, que tout le monde connaît et tout. Et puis, bien sûr, la personne privée, celle qui rentre à la maison, qui préserve sa vie privée, de famille et tout. Et puis, il y a une troisième personne. Et cette troisième personne, on dit que c'est la personne secrète. Je pense qu'on est tous comme ça, en train de vivre avec trois personnes en nous-mêmes. Oui, voilà, écoutez, je crois que vous avez piqué c'est Garcia Marquez qui disait ça par rapport à l'écriture, à la littérature. Oui, oui, effectivement, oui, oui, c'est en lisant, je crois, 100 ans de solitude que j'ai trouvé cette anecdote, mais je la trouve intéressante. Ah oui, 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 elle est très pertinente. Non, non, vous avez raison de dire ça, mais bon, écoutez, je me tourne maintenant vers notre deuxième invité. Passons, non. Alors, on dit non ou nom? Non, non. Donc, c'est sans eux, voilà. Donc, passons, non. Vous êtes psychologue en milieu carcéral et c'est un lieu quand même où... il y a Dr Jekyll et Mr Hyde, ils sont bons, mais en même temps, ils ont été mauvais. Alors, est-ce qu'il peut y avoir plusieurs personnes dans une personne? Et est-ce qu'un prisonnier peut se sentir libre et donc sentir qu'il est à l'extérieur, dehors? Et en même temps, alors je pose tout de suite la deuxième question, est-ce que quelqu'un qui aurait fait un grand délit grave, mais que la société n'aurait pas puni, est-ce qu'il peut avoir au sein de lui-même l'idée qu'il est une autre personne et qu'en fait, il est en prison quelque part? Ah ben ça, c'est une question philosophique, hein. C'est pas forcément quelque chose de très pratique, parce que la justice, c'est la justice, hein. On vous envoie en prison ou vous êtes innocent et vous restez dehors, hein. Pas toujours, hein. Bon... On en connaît certains qui... Bon, il y a toujours les non-lieux, il y a plein d'autres choses. Mais soyons, basiques. ou vous êtes dedans ou vous êtes dehors. Donc si vous êtes dans la prison, c'est que vous avez fait un délit et que la société a estimé que vous devez payer à la société le fait d'être enfermé. Oui, mais moi, ma question, c'est est-ce que dans soi-même, on peut être enfermé? Là, bon, on est en studio, là, on est quatre personnes, mais on pourrait imaginer que chacun est tout seul dans son coin, qu'on n'est pas tous ensemble autour du micro. Oui, je pense qu'on peut voir les choses comme ça, mais à ce moment-là, bon, la solution d'habitude, c'est de dire, bon, allez voir un psychanalyste, hein, et il va essayer de trouver au fond de vous-même la personne qui se cache. C'est comme ça que souvent on voit les choses. Oui, alors... Non, ce que vous me dites, c'est assez rigolo, mais c'est bon, il y a la fameuse série là, qui s'appelle sur la psychanalyse, où on voit un acteur formidable qui écoute ses patients, et on voit sur le visage de l'acteur, en fait, ce que les patients ne sont pas en train de dire, mais en train d'exprimer. Bon, c'est formidable ça, mais ce dont on parle, c'est quand même... une sorte d'imposture interne de soi-même. Ah ben moi, je trouve ça plutôt rigolo et jubilatoire. Bon, pas si c'est un assassin, parce que alors là, ça ne marche pas, mais si chacun d'entre nous ici dans le studio se dit « je suis tout seul, je fais ce que je veux, je parle de ce que j'ai envie », ça peut être fait avec beaucoup de talent, hein, pourquoi pas oui. Ben, moi, je pense à Émile Ajar et son complice Romain Gary. C'est quand même un magnifique exemple. Ah oui, là vous avez raison. Non, c'est vraiment le plus bel exemple d'imposture de littérature et personne ne songe à la condamner. C'est quelque chose qui est un exemple dans toutes les écoles d'écriture, de lettres. Et c'est quand même pas mal que Romain Gary ait réussi ce... Bon, malheureusement, dans sa vie personnelle et interne, après, ça a été très compliqué pour lui, oui. Mais... bon, des exemples de sosies littéraires, y en a beaucoup. Bon, je voudrais donner la parole encore à notre... Attendez, bon, alors, je vous écoute, oui. Ah oui, oui, je vois, vous me faites le signe de la barbe blanche, oui, c'est... Attendez, je trouve, c'est Tintin dans le sceptre d'Ottokar, c'est les deux frères qui ont une barbe blanche, l'un est un escroc... Et l'autre, il est, c'est un génial savant. Et ils se ressemblent tellement, ils se font passer l'un pour l'autre. Oui, alors, l'histoire des jumeaux, c'est... bon, la gémilité a toujours fasciné. Non, c'est ce que vous voulez me dire. Oui. Là, vous me surprenez un peu parce que la fascination, parfois, c'est de façon tout à fait funeste. Hein. Moi, je pense pendant la guerre... Ne dites pas son nom, le docteur. Oui, je vois. Oui. Non. Toutes les expériences sur les jumeaux. Bon, on ne va pas parler de cela. Alors, bon, puisque vous avez sous-entendu cette histoire, moi, je voudrais faire, avant de donner la parole... Je pense au livre « Les bienveillantes » de Jonathan Little. En fait, alors moi, j'estime que c'est un chef-d'œuvre de littérature. Hein. Je ne suis pas historien, mais je suis un grand lecteur. C'est absolument formidable. C'est un livre génial, même s'il a déjà maintenant une dizaine d'années. Et il y a un frère et une sœur, et ils sont jumeaux tous les deux. Alors bien sûr, il y a toute une polémique sur ce rôle, mais cette gémilité, elle... s'accroche à la mythologie grecque, et elle a des explications, d'ailleurs les bienveillantes, hein, c'est une constellation d'étoiles, et c'est toute une référence, mais bon, c'est avant tout de la littérature. Je trouve quand même, alors j'ai utilisé un mot qui n'est pas très, qui n'est pas très correct, mais rendre un salopard sympathique, pour dire que seule l'écriture peut nous obliger à sortir de nos préjugés, ça mérite d'être lu et ça permet de se dire on est plusieurs personnes dans soi-même. Hein, ce Max, il était multiple. il est multiple dans 900 pages. Donc, c'est quand même assez intéressant. Oui, alors, moi, je voudrais rajouter aussi que je l'ai lu attentivement, mais je n'avais pas toutes les références, disons, historiques. Mais il y a un livre, d'ailleurs, qui est sorti, qui décrypte complètement les bienveillantes. Mais moi, j'ai trouvé qu'il y avait des occurrences, il y a énormément d'occurrences à Flaubert, hein, des citations, par exemple, le personnage se nomme Moreau, hein, je crois que c'est sa mère. Et voilà, il y a aussi des exemples dans le cinéma, hein, de personnages comme ça doubles, on ne sait pas lesquels ils sont, ils sont plusieurs tout en étant seuls. Alors, je voudrais me tourner vers notre troisième invité. Alors, Monsieur Nob Audi, vous êtes britannique, vous parlez sans accent parce que vous êtes en France depuis très longtemps. Oui, appelez-moi Rob. Bon, d'accord. Alors, Rob, vous êtes un activiste anti-Brexit, on vous connaît comme cela, mais vous êtes avant tout un écrivain. Et vous écrivez des scénarios de films aussi. Et je cherche le film, vous voulez dire le film avec Jeremy Irons. Oui, oui, c'est ça. C'est les deux frères gynécologues. Ils sont amoureux tous les deux de la même femme. Et la femme qui est courtisée, elle ne sait même pas plus lequel des deux est avec elle. Le film s'appelle « Faux-semblant » de David Cronenberg. Il date de 1988. Et au Canada, enfin au Québec, ils l'ont appelé « Alter Ego ». Mais le titre original, c'est « Dead Ringers ». Alors, difficile à traduire. « To ring », c'est « sonner », mais c'est aussi « ring », c'est l'anneau. Ce que ça veut dire, les sonneurs morts, ou le jour, c'est aussi l'anneau, ou le cercle mort, ou est-ce que ça veut dire... bon, c'est un peu compliqué. Enfin, je note quand même... Je vous interromps. Les deux frères, là, les deux jumeaux, ils sont gynécologues. Et c'est le symbole quand même des naissances. C'est-à-dire qu'on va naître en étant plusieurs personnages dès la naissance et très rapidement, on vous met dans un moule et vous êtes là, on vous donne un titre. Vous arrivez, par exemple, à une émission de radio, vous asseyez devant un micro et on vous dit, ben voilà, vous avez tel et tel métier et vous appelez de telle façon. Voilà. Et puis, vous restez dans ce cadre. Alors, pourquoi pas ne pas en sortir ? Oui, mais là, vous me dites ça parce que vous êtes un acteur. Hein. Donc, c'est facile, c'est pas évident de passer pour quelqu'un d'autre, même si l'imposture est une magnifique façon de vivre. Moi, je pense que c'est un petit peu difficile de réussir cela. C'est un exploit technique qui pourrait être même effrayant. Moi, je sais que dans ce film-là, Robert De Niro, il a refusé le rôle, oui. Bon, écoutez, je voudrais revenir à mon idée de la coïncidence. Pensez-vous que vous pouvez imaginer quelqu'un, enfin, vous avez une espèce de flashback comme ça, et puis hop, vous le rencontrez au coin de la rue. Est-ce que c'est de la prémonition? Est-ce que c'est de la double vue? Est-ce que c'est ou alors peut-être que la personne que vous rencontrez à laquelle vous venez d'avoir pensé, c'est vous-même? Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Oui, vous avez, oui, Rob, vous avez raison. Oui, en fait, vous rencontrez vous-même. Mais ça veut dire que si on ne le fait pas, c'est qu'on a peur de soi. Oh non, 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 Ambroise, là, vous mettez de la psychologie, là, c'est pas très drôle, je suis pas sûr. Non, mais passons, ce n'est pas seulement de la psychologie sérieuse, ça peut être quelque chose de très rigolo. Moi, je connais des jumeaux qui font des blagues, hein, tout le temps. Je dirais plutôt que c'est des choses... ça arrive, on se fait passer l'un pour l'autre, ou au contraire, de façon très fusionnelle, on se retrouve à être deux, à être un, ou même à être trois. Oui, Albert, oui. Est-ce que c'est un jeu de se faire passer pour un autre ? Écoutez, Albert, si vous posez la question, c'est que vous pensez que... Moi, je pense que cela pourrait être... Alors, c'est théorique, mais je suis sûr que ça peut exister. Ça peut être un objet de fraude, par exemple, pour des examens. Moi j'imagine quelqu'un qui va passer le permis de conduire. Eh bien, il est sûr de rater parce qu'il a peur au volant, il n'a pas pris les leçons et tout. Vous appelez quelqu'un qui vous ressemble, hein. Il va prendre votre carte d'identité, on ne vérifie pas vraiment, il va prendre les leçons, et puis, bien sûr, on lui demande sa carte seulement une seule fois. Eh bien, comme il sait déjà conduire, il va peut-être faire semblant la première fois de caler, mais ensuite, il sait conduire, et puis il va réussir l'examen sous votre nom. Voilà. Donc ça, c'est une façon tout à fait sincère, tricheuse, d'être plusieurs personnes en même temps. Oui, mais alors, c'est dangereux ce que vous faites là, parce que vous donnez des idées de triche, ce n'est pas la même chose. Ah oui, effectivement, moi, je parlais de fiction. Et la fiction, ce n'est jamais dangereux. Rob, oui ? Non, mais quand vous donnez des fausses nouvelles, oui, des fake news, par exemple, vous dites qu'on peut boire de l'eau de Javel contre le Covid, y a des gens crédules qui vont y croire. Ou alors vous dites, après la grève des contrôleurs, le train est gratuit, c'est la grève des voyageurs, vous pouvez aller quand vous voulez. Vous donnez l'information, et si on n'est pas un 1er avril, il y a des gens qui vont vraiment le croire. Oui, mais parce qu'ils ont envie de le croire. Donc, encore une fois, il y a deux personnes, comme ici, il y a trois personnes autour du micro, il y a deux personnes, il y en a une qui se dit « c'est pas possible, c'est faux », puis l'autre qui se dit « ça serait vachement bien si c'était vrai ». Et on va à la gare et on prend le premier train et voilà, ça marche. Moi, je trouve que c'est toujours bien de vivre dans un monde imaginaire. Oui. Bon, vous l'avez bien connu. On n'a pas toujours... on n'a même pas cité le nom d'Alice, là. Quand on va chez l'ophtalmologue, moi, je voudrais la revoir. Comment je fais ? Je vais sur Facebook pour la retrouver ou alors j'écris à Gala pour faire suivre une lettre. Je peux lui laisser un petit mot chez l'ophtalmologue. Ah non, mais vous savez que pour avoir un rendez-vous, vous attendez 3 ans. Donc, si vous voulez revoir Alice, il faudra que vous attendiez 3 ans. Oui, c'est vrai que c'est pas pratique comme ça. Mais enfin, est-ce qu'on peut tomber amoureux d'une personne que l'on a vue que pendant quelques secondes, ou au contraire qu'on n'a jamais vue, qu'on a vue dans un journal ? Bon, oui, c'est ce qu'on appelle faire partie d'un fan club. Oui, d'accord, mais je sais qu'il y a des gens qui, par exemple, se rencontrent sur Internet grâce aux images, à Skype et tout ça. Ils vont échanger pendant des mois et, en fait, ils croient se connaître. Et ils décident de se rencontrer. Et là, bien sûr, grosse déception, trahison. Ce n'est plus la même personne auquel on rêvait. Et en fait, on avait rêvé de rencontrer qui ? On avait rêvé de se rencontrer soi-même. Ah, mais ça existe, des gens qui se marient, qui ne se connaissent pas et qui, par Internet, vivent ensemble. Oui, c'est en 2023, on peut se marier. Bon, c'est vrai que actuellement, les gens se marient plusieurs fois dans la vie. Donc, effectivement, on peut faire plein de choses comme ça. C'est très... au moins, chacun fait son propre choix. Ça n'existe plus, les mariages arrangés. Parce que le mariage arrangé, c'est encore une fois d'être deux personnes. Celle qui a vraiment envie de faire quelque chose, si elle arrive à exprimer ses envies. Et puis, de l'autre côté, les parents qui imposent, ou la société, ou le mode de vie qui vous dit, il faut que tu épouses quelqu'un. Tu es un fils d'avocat, tu vas épouser une fille d'avocat, des choses comme ça. Bon, mais ça, ça se passe dans les sociétés rétrogrades, ou alors dans les pays sans éducation, quand il y a une grosse pauvreté ou une pauvreté intellectuelle. Moi, je dirais que quand même, arriver à exprimer son propre choix, ça s'appelle être démocratique au sein de, en l'occurrence, de sa famille. Ce sont des relations individuelles, en famille, en couple. Oui, non, non. Autrefois, c'était des histoires d'argent, de partage de terres. Oui, mais alors, on pourrait se marier avec soi-même, mais bon, ok, la nuit, ça rend sourd. Mais enfin, vous me donnez une idée. Vous allez dans une agence matrimoniale. Alors, vous y allez deux fois, hein. Sous deux noms différents, et puis la deuxième fois, vous portez une perruque. Et on vous fait faire des tests, on vous montre des photos et tout, puis vous trouvez que la personne, c'est en fait vous-même, mais les gens de l'agence ne le savent pas, il dit « Ah, j'aimerais bien la rencontrer, j'aimerais bien avoir rendez-vous. » L'agence, elle va organiser un rendez-vous de tous les deux dans l'agence. Bon, vous pensez que ça marcherait, ça? Non, bon, ce serait plutôt un gag littéraire. Mais je voudrais revenir encore une fois, avant que l'émission ne se termine, sur cette histoire de coïncidence dans le cabinet de l'ophtalmologue. Bien sûr, c'est pas pour rien que ça se passe chez dans un cabinet d'ophtalmologue, parce que on y voit flou, on y voit trouble et on y voit double. Et on pense à quelqu'un en trouvant une vieille photo, et on se dit, qui sait, hein, vous avez une photo, par exemple, dans votre table de nuit qui date d'il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. Vous ne vous souvenez plus du nom, vous ne vous souvenez plus des circonstances. Vous voyez sur la photo que vous étiez ensemble sur une plage, vous voyez les palmiers, enfin, c'est le cliché. Tout d'un coup, le téléphone sonne. Ah, mais c'est elle. Allô, allô. Et vous reconnaissez tout de suite la voix. Alors, moi, je vous donne comme conseil, surtout, ne pas dire « Ah, mais je pensais à toi !» Et puis raconter l'histoire de la photo que vous avez sortie, là, du fin fond des archives. Non, non. Vous enchaînez avec un truc banal. « Ah, au fait, est-ce que tu as rangé la voiture au garage ou est-ce que tu l'as laissée dans la rue ?» Et à ce moment-là, vous reprenez la conversation comme il y a 30 ans. « Ah ben oui, oui, oui. Oui, c'est un petit peu comme parler avec les morts. Oui, c'est ce que faisait Victor Hugo. Il faisait tourner les tables. Eh bien, faisons tourner la fin de cet épisode. Voilà. » Vous l'avez bien connu, épisode numéro 15, « Je m'aime, moi aussi », avec Albert Zone, Alperson, acteur, Passon Non, psychologue en milieu carcéral, et Nob Audi, écrivain anti-Brexit, à la technique Thomas Marinelli, « And my name is Ambroise Perrin ».